ici Gladys Rowell du cabinet Au cœur du lien. Je vous présente une nouvelle chronique, Au cœur du lien, sur votre radio Sud-Manche, pour mieux comprendre les petits et les grands.
Aujourd'hui, on va aborder les obstacles à la communication. Alors, c'est complémentaire hein, de la communication bienveillante et puis de la communication non-violente. Alors, pour préciser, la communication non-violente, qu'est-ce que c'est ? La communication non-violente, c'est un processus, plus qu'une méthode, qui a été créé par Marshall Rosenberg, qui est un processus déposé, en fait, qui correspond vraiment à quelque chose de très précis. Et c'est pour ça que quand on parle de la communication bienveillante, c'est bien plus large. Et là, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des obstacles à la communication qui font référence notamment à Gordon, qui est un auteur et qui a, en fait, lui, a établi les 12 obstacles à la communication de Thomas Gordon. Si vous voulez regarder, je pourrais vous mettre le lien sur ma page Facebook, donc au cœur du lien. Vous aurez du coup un petit mind map qui pourra peut-être vous mettre un résumé de la chronique. L'idée, c'est vraiment de se dire quels sont les outils de communication, donc comment je vais parler, quand je vais verbaliser les choses, qu'est-ce que je dois éviter pour que mon message soit vraiment bien entendu et facilement entendu, quelle que soit la susceptibilité de mon interlocuteur. Alors, on est bien d'accord qu'on n'a pas tous la même susceptibilité à entendre un message. Il y a les gens qui vont relativiser beaucoup plus facilement que d'autres et d'autres qui vont être très sensibles à l'usage des mots, à l'usage de la forme, en fait. Hein, et donc, ça ne va pas générer la même réaction. Donc, ça, on est tous différents là-dessus. Mais en tout cas, Thomas Gordon, lui, il a quand même repéré, des réactions... de manière globale, générale, celles qui reviennent la plupart du temps et qui vont être en fait des obstacles à la communication. Ça veut dire que ça va complexifier en fait l'arrivée du message et souvent ça va l'empêcher. Alors ça, c'est bien entendu utilisable dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire à la maison, au travail, au supermarché, en famille, tout le temps. Déjà, pouvoir garder en tête que quand on va communiquer avec quelqu'un, et notamment par rapport aux enfants, ça peut nous arriver souvent d'utiliser le fait de faire de l'humour en fait. Hein. Parfois, on va esquiver, on va faire de l'humour. L'enfant va vous dire une réflexion du type je veux du chocolat ou voilà, et puis vous allez lui répondre en rigolant pas de bras, pas de chocolat. Ça peut effectivement, alors pas systématiquement bien sûr, hein, si l'enfant il est dans une humeur, j'ai envie de dire d'ouverture, etc., évidemment il va savoir s'adapter. Mais à certains moments, faire de l'humour, ça peut être un obstacle à la communication, notamment entre adultes. Hein, parfois, vous riez jaune parce qu'en fait, vous ne savez pas trop comment vous sortir de la situation. En fait, vous êtes obligé de rire. Parce que c'est socialement le comportement qui va être le plus adapté, mais sauf que vous êtes quand même touché et que du coup, ça a créé de la distance avec l'autre. Et c'est vraiment ça, en fait. Quand on est dans la communication bienveillante, l'idée, c'est vraiment faciliter, en fait, le lien à l'autre, en fait, et créer une qualité relationnelle importante. Alors, effectivement, si c'est avec le boulanger, peut-être que, on n'a pas forcément envie d'investir autant. Mais peut-être que si c'est avec son enfant ou avec son conjoint, on a envie de se sentir connecté, on a envie d'être en relation avec l'autre de manière intense. Et c'est là on peut choisir justement, comme je dis, on peut choisir d'avoir en fait une communication qui soit peut-être un petit peu plus construite. En tout cas, dans un premier temps, parce qu'après, ça devient des mécanismes, en fait. Une fois qu'on a acquis ces systèmes-là, après, ça devient complètement des mécanismes. Qu'est-ce qui, en obstacle à la communication, de façon évidente, quand on va donner un ordre, quand on va commander, quand on va diriger, on va obtenir de la résistance. Ça, c'est physique, en fait. Hein, c'est une réaction physique. Alors, il y a des enfants qui sont plus réceptifs à ça que d'autres. Les adultes aussi, d'ailleurs. Hein si par exemple on dit mets ta serviette pour manger, on a plus de chances que l'enfant ne soit pas d'accord. Par contre, si on lui dit ta serviette est à côté de ton assiette, l'enfant il sait très bien à quoi ça sert la serviette. Et donc du coup le message va mieux passer en fait. parce que en fait, c'est, on ne lui impose pas quelque chose. Alors, je ne sais pas quel adulte vous êtes vous, mais quand on vous dit mets ta ceinture, mets ton masque, ne sors pas, ne vois pas tes amis, etc. Je ne sais pas comment vous vivez les choses, mais il y a de la résistance pour certains en tout cas. Donc voilà. Donc à chaque fois qu'on va pouvoir donner une information, ça va être plus efficace que de donner un ordre, vraiment. Et ça, c'est aussi valable quand on est manager en fait. Hein. C'est vraiment quelque chose d'important. Quand on va aussi menacer un enfant, si tu m'écoutes pas et que il y a le feu, comment ça va se passer? Ou si tu m'écoutes pas et qu'il y a une voiture, tu vas te faire écraser. Alors, en fait, quand on va menacer, quand on va faire peur, en fait, hein, on va créer aussi, on va créer forcément une dans la relation quelque chose qui va pas être confortable, en tout cas pour l'enfant. Hein. Nous, ça va nous mettre dans un rapport de domination, hein, puisqu'en fait, on menace. On reverra, mais dans une prochaine chronique, je viendrai aussi sur le 1, 2, 3. Hein. À 1, tu viens, enfin voilà, il est 1, 2, 2, 1 quart, 2, 3 quarts, etc. Puis qu'est-ce qu'on fait quand on arrive au 3, quand on compte et que l'enfant veut pas venir, veut pas partir du parc, par exemple. En tout cas, la menace, c'est vraiment quelque chose qui agace. Alors moi, c'est comme ça que j'ai utilisé ça personnellement. Je dis la menace, ça agace. Et donc, ça veut dire que moi, j'ai pas le droit d'utiliser, même si parfois ça m'arrive hein, maladroitement. Mais ça veut dire aussi que ma fille n'a pas le droit d'utiliser non plus. Et c'est quelque chose qui est pas correct. On peut pas communiquer avec de la menace. Parce qu'en plus, adulte, une fois adulte, on ne peut pas menacer l'autre, on ne peut pas menacer son collègue. Si tu ne fais pas ça, je te crève tes pneus. C'est pas possible, en fait. Il n'y a pas. Voilà. Donc, ce code de communication-là, en fait, il n'est pas utile pour la vie, en fait. Donc, à nous, adultes, de trouver les moyens de communiquer autrement. Puisqu'à chaque fois qu'on communique, à chaque fois qu'on existe avec nos enfants, on est un exemple, en fait. Et est-ce qu'on a envie qu'il soit cet exemple-là? Alors, évidemment, on n'est pas parfait. Évidemment, ça nous arrive de dire, bah, écoute, si tu ne comprends pas qu'on ne peut pas acheter ça, bah, dans ces cas-là, moi, je repose tout dans le magasin et puis on s'en va. C'est une menace. Donc, ça peut arriver, effectivement, de l'utiliser. Mais moi, j'ai envie de dire, je pense que c'est plus de la maladresse. Et en tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de voir les choses. Un manque de créativité hein, sur quelque chose qui c'est la vraie vie, hein, on est dans la spontanéité, plutôt que vraiment avoir ça comme méthode pour pouvoir communiquer avec l'autre, parce qu'on ferait pas ça avec des adultes, hein, tout simplement. Hein. Quand on a des choses à dire aussi aux enfants, et quand on a des prises de conscience, alors moi j'ai déjà des prises de conscience. Parfois, on pourrait avoir tendance à moraliser, à faire la leçon, à expliquer longuement, tu comprends, tu peux pas faire ça parce que vraiment, c'est pas gentil de parler comme ça, etc., etc. Là, en fait, on va faire naître chez l'autre un sentiment de culpabilité, surtout quand on utilise des mots type pas gentil, parce que voilà, gentil, méchant, c'est présent dans tous les bouquins des gamins d'ailleurs, mais on sait pas trop ce que c'est. Ça met une étiquette sur l'enfant, ça veut dire que ça l'enferme dans quelque chose et en fait ça ne correspond à rien. Qu'est-ce que ça veut dire d'être gentil? Qu'est-ce que ça veut dire d'être méchant? Est-ce que dans le mot méchant, moi je le définis comme avoir l'intention de faire mal. Il y a quand même très peu de situations où on a l'intention de faire mal. Possiblement quand on est en colère ou quand on est frustré, on peut avoir envie de faire mal parce qu'on a eu mal. Mais ça dure pas longtemps. Donc le mot méchant, le mot gentil, c'est quelque chose qui va enfermer. Hein. C'est des étiquettes, comme timide par exemple. Hein. C'est une étiquette. Dès qu'on va mettre une étiquette sur un enfant, on va verrouiller les choses. Et parfois, jusqu'à l'âge adulte, on va garder cette étiquette-là. Hein. Moi, je me rappelle. Enfin voilà, j'ai en tête souvent des adultes qui c'est le bricoleur. Elle s'occupe des papiers, etc. Et donc, on peut pas demander au bricoleur d'aller chercher un papier. On peut pas demander. Ça enferme vraiment les gens. Et parfois, l'étiquette qui a été posée enfant, hein, elle reste tout au long de l'âge adulte. La timidité, par exemple, ça peut être un trait de caractère, mais il y a plein de comédiens qui sont timides. Alors, qu'est-ce que ça. Voilà, ça nous interroge sur comment ça enferme. Comment ça peut enfermer et comment on va justement après ouvrir pour lever ces croyances-là. Et quand on a un jugement sur soi hein, qui a été, euh, qui a été posé par nos parents depuis tout petit, c'est pas simple pour le lever. Hein. Donc, pour revenir aux obstacles à la communication, quand on moralise et qu'on fait la leçon, c'est pas très efficace non plus. Hein. Donc, il faut plutôt travailler sur la prise de conscience et donner de l'information sans chercher à culpabiliser, parce que c'est pas la culpabilité qui fait bouger et qui fait changer le comportement. On a cru ça dans l'éducation traditionnelle, souvent on se dit, bah oui, il faut qu'il culpabilise, qu'il souffre pour modifier son comportement. Et c'est pas vrai, en fait. Ce qui va nous aider à changer de comportement, c'est la conscience et c'est notre pensée, c'est de comprendre ce que l'autre effectivement va ressentir. Donc là, on va plutôt être sur la capacité à être en empathie avec l'autre et puis de se dire qu'effectivement, en fait, il y a des leviers. Si je fais ça, ça entraîne ça. Et donc, du coup, moi, j'ai pas envie d'être comme ça, etc. Et c'est tout ce mécanisme-là, en fait, on va vraiment muscler la zone frontale de son cerveau pour être vraiment dans la prise de conscience et changer son comportement. Et c'est ça qui va vraiment être levier. C'est pour ça que la peur et la culpabilisation, ça ne fonctionne pas. En tout cas, pas sur le long terme. Et ça ne, en fait, ça n'aide pas et ça ne soutient pas le développement de l'enfant. Alors, ce qu'il y a aussi qui peut être bizarrement un frein à la communication, ça va être quand on va conseiller quelqu'un, qu'on va lui trouver des solutions. En fait, on peut générer un sentiment d'infériorité, en fait. C'est-à-dire que avant que l'autre ait eu le temps de dire ouf, il a juste eu le temps de poser son problème, parfois, même pas complètement. Et ben, on va lui dire, ah, mais si tu fais ci, si tu fais ça, ben, non, mais t'as qu'à faire ci, puis t'as qu'à faire ça. Puis, ben, quand tu rentres de l'école, tu prends ton goûter, et puis tu fais tes devoirs, et comme ça, t'es tranquille. Alors, en tant que parent, on a tout le temps envie de faire ça. On a tout le temps envie de décider. On a tout le temps envie de, parfois, de contrôler aussi nos enfants, hein, parce que ça serait tellement plus simple. Et puis donc, du coup, bah, en fait, on va avoir un bel élan, puisqu'en plus, on est des parents bienveillants, bien sûr. Donc, on va pouvoir conseiller, on va trouver des solutions. Sauf que ça va créer un sentiment d'infériorité chez l'enfant. En tout cas, ça peut le créer, et puis ça va pas l'aider à se responsabiliser, et ça va pas l'aider à être autonome, en fait. Hein. Parce que ce qui va aider l'enfant à être autonome, c'est sa propre capacité à trouver ses solutions, et en tout cas, à pouvoir l'élaborer, en fait. Donc, quand on va conseiller et trouver des solutions à la place de l'autre, on risque de créer un sentiment d'infantilisation. Ça marche aussi chez les adultes, hein. On peut aussi être comme ça. Et puis, on peut aussi avoir la sensation d'étouffer avec quelqu'un comme ça, qui va trouver des solutions avant que vous ayez dit « ouf ». Et puis, alors, une autre façon de faire qui peut être aussi un obstacle à la communication, ça va être d'argumenter, de persuader, alors, de pouvoir, on va dire, justifier, expliquer, convaincre, etc. Et l'autre, il n'en est pas là à ce moment-là, il n'est pas disponible à vous écouter, il n'est pas disponible à ces explications-là, ce qui fait que ça va provoquer une réaction défensive. Vous allez dire, mais oui, mais il faut que tu comprennes, parce qu'en fait, il y a ce, voilà, et puis il y a un tel, et puis vous allez rentrer dans des trucs, et là, l'enfant, par exemple, lui, il n'en est absolument pas là, il ne vous entend plus. Il n'y a que une réaction défensive qui va se mettre en place, il va être contre, alors que vous avez peut-être raison, c'est pas de problème. Votre explication, votre démonstration, elle est peut-être tout à fait juste selon votre point de vue, mais il peut pas l'entendre en fait à ce moment-là. Et ça va créer un obstacle à la communication et vous dire, mais vous ne comprenez pas non plus ce qui se passe, parce que pour vous, vous êtes c'est complètement logique hein, ce que vous déroulez, sauf que l'autre, il n'est pas du tout disponible à ça. Souvent, on n'a d'ailleurs pas pris pris la précaution de demander à l'autre si c'était le moment pour lui. Et du coup, bah, on tombe à côté et on ne se rencontre pas. Alors évidemment, quand on va critiquer quelqu'un, hein, quand on va le juger, quand on va critiquer, alors quand je dis juger, hein, on reviendra justement sur ce que c'est qu'un jugement, mais pour une prochaine chronique. En tout cas, quand on va critiquer, j'entendais une maman là qui parlait de son enfant et qui disait... alors que c'était dans un lieu public, hein, c'est pas une maman auprès de qui j'intervenais, mais qui disait « mais t'as vraiment tous les vices ?» Et son petit garçon avait 18 mois. Bon, a priori, en termes de communication, il y a plus efficace que d'être dans la critique, voire dans l'insulte, hein, parce que effectivement, c'est vraiment pas agréable. Mais parfois, on va y être sans s'en rendre compte, en tout cas sans mesurer l'impact que ça peut provoquer. Évidemment, quand on critique l'autre. Ça va provoquer une baisse d'estime de soi, hein, une baisse de confiance en soi. Et ça va attaquer hein, l'image que l'enfant se fait de lui-même. Donc, on peut, voilà, ça, l'enfant risque d'être sur la défensive pour se protéger. Et surtout, ça va faire des dégâts sur le long terme. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est à proscrire. Même si ça nous échappe de pouvoir s'en excuser, bien entendu, quand on s'est aperçu qu'on a pu dire « Ah, mais non, mais dis donc, qu'est-ce que t'es speed, là ?» Ben ça, c'est une critique, en fait. Hein. C'est une critique, c'est un jugement, c'est une étiquette. Et on peut très bien dire « Écoute, je me sens fatiguée, là. J'ai vraiment besoin de calme. Est-ce que c'est possible pour toi d'aller un peu plus loin, jouer à la corde à sauter, par exemple ?» Là, on va être vraiment dans l'expression de ce qui va être important pour nous. Et puis, on va faire une demande. Voilà. Et là, c'est beaucoup plus recevable. Et on ne s'attaque pas à la personnalité de l'autre, en fait. Et c'est vraiment ce qui va être déterminant dans la communication bienveillante. C'est prendre soin de l'autre sans s'oublier soi-même. Hein, ce qu'on a vu dans une des chroniques précédentes, c'est vraiment de prendre soin et de pouvoir prendre soin du lien, en fait. Je vais vous laisser là-dessus pour les 6 premiers obstacles à la communication et on verra les 6 prochains la semaine prochaine. Voilà. Je vous dis à tout bientôt et je vous souhaite un bel été.
Voilà, on se retrouvera pour une prochaine chronique. À bientôt. Au revoir.